Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagné d'un ornithologue.
Ornitho-quoi ?
Il était une feuille. Il était une feuille avec ses lignes. Lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était une branche au bout de la feuille. Ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche. Un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé. Un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre. Racines, ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Au bout des racines, il était la terre. La terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre. Robert Desnos.
Anya.
Zoé.
Bonjour à toutes les escapadeuses et tous les escapadeurs. Nous sommes le 12 juin 2024, c'est-à-dire le deuxième mercredi du mois. Il est 9h32, on est à l'heure. Et c'est le moment où votre ornithoquois s'installe derrière le micro pour une nouvelle émission naturaliste en direct depuis des studios de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est la dernière émission de l'année avant la trêve estivale. Voici le menu de votre émission ornitho préférée. Pour commencer et se mettre en bouche un peu de musique, on enchaînera avec le Nature Quiz de Lily, puis l'actu piaf avec des nouvelles des oiseaux du coin. Et j'ai plein de bonnes nouvelles à vous raconter. La suite de l'émission, ce sera une petite revue de presse dans le Nature Actu et enfin le Vocabu Piaf. On terminera cette première partie avec la réponse à la devinette de Lily. Une fois que nous aurons fait tout ça, on fera une nouvelle pause musicale et poétique avec toujours les enfants de l'école de Sumène qui nous offrent quelques poésies qui ponctuent cette émission. Ça fait du bien. Puis on poursuit cet ornithoquois avec rencontre avec Homo sapiens. Ce sont deux Homo sapiens de sexe masculin et d'âge adulte que je suis allé rencontrer à Nîmes lundi dernier. Cyril Sabran et Daniel Bizet qui travaillent tous les deux au centre ornithologique du Gard, le COGAR. Et bien avec eux, on parlera d'oiseaux. Original, hein ? Après cette interview, nous terminerons cet ornithoquois en musique et en poésie. Voilà, nous sommes le mercredi 12 juin 2024, vous êtes sur Radio Escapade. Vous écoutez l'ornithoquois avec Béranger au micro et Antoine en face de moi, derrière la vitre et devant la console. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans votre fauteuil et à mettre vos oreilles sur écoute. Allez, c'est parti, on commence cette émission en musique avec Le Temps des Cerises. Une chanson qui date...
Le maire, le moqueur.
nature quiz.
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
Bonjour à tous, voici la question nature de ce mois-ci. Une petite charade maison. Mon premier n'est pas laid. Mon second est au milieu de la figure. Et je rejoins mon dernier chaque soir. Mon tout est un ornithologue italien qui a décrit mon espèce d'oiseau préféré. Alors, vous avez trouvé ? Je vous donne la réponse tout à l'heure, juste avant la pause musicale.
Actu Piaf. Des nouvelles des oiseaux de la région au fil des saisons. Bon, je crois qu'Antoine, il a trouvé la charade. Bravo. Bon, je vous le dis pas, parce que pas cramer le truc, quoi. Pour continuer, donc, voici l'actu Piaf et quelques nouvelles des oiseaux du coin. C'est le printemps et bientôt l'été. Oui, on entend des cigales depuis quelques jours. Je sais pas si vous en avez entendu, mais bon, signe que l'été approche à grands pas. Un printemps assez étrange tout de même cette année, avec un peu bouleversé par des conditions météo particulières. Mais on va pas s'en plaindre, toutes ces fleurs de partout, c'est génial, on a une garrigue normande. Mais malgré les impressions, le mois de mai 2024 a été encore une fois le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, avec une température moyenne mondiale supérieure de 0,65 degrés Celsius à celle de 91-2020 et à de 1,52 degrés par rapport à la moyenne pré-industrielle de 1850-1900 d'après le service européen Copernicus. Bref. Mais bon, on s'habitue à ce genre d'informations, on n'y prête même plus attention. C'est bientôt l'euro, ça c'est important. Encore une fois, c'était l'instant météo de l'ornithoquoi. Nous revenons maintenant à nos moutons, ou plutôt à nos oiseaux. Alors, pour ce qui est des oiseaux que nous suivons de près dans notre action Natura 2000. En premier lieu, l'aigle de Ponelli, bien sûr. Mercredi dernier, nous sommes montés en haut de la montagne avec un grimpeur et un bagueur pour aller chercher dans son nid douillet le poussin qui avait 40 jours afin de lui poser une bague à la patte. Alors on me demande souvent si cela n'a pas d'effet néfaste sur ces poussins, sur ces oiseaux. Eh ben oui, c'est le pire dérangement que l'on puisse faire, mais il est maîtrisé et il est aussi ponctuel. Cela nous apporte tellement d'informations que ça en vaut la peine. Et sur le long terme, c'est-à-dire le temps de vie de ces oiseaux, il n'y a pas d'effet négatif pour eux, c'est des études qui ont pu démontrer ça. Quant aux parents, car on me demande souvent, non, ils ne nous attaquent pas lorsqu'on s'approche du nid, et aussi ils n'abandonnent pas leurs poussins après notre passage. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un jeune aigle de Bonelli qui va bientôt s'envoler, souhaitons-lui longue vie. Pour son voisin, l'aigle royal, eh ben, c'est la même histoire avec quelques jours de décalage. Nous irons baguer l'aiglon en fin de semaine prochaine. Enfin, le dernier rapace Natura 2000 que nous suivons de très près, le vautour Percnoptère, eh bien, nous ne savons pas combien il y a de poussins, car l'intérieur du nid n'est pas visible à distance, mais nous voyons les adultes apporter de la nourriture dans l'air. Signe qu'il y a en moins un jeune. Que de bonnes nouvelles, c'est la première fois ici que les trois espèces se reproduisent avec succès simultanément. Ça se fête, non ? Nature Actu ?
L'actualité naturaliste internationale, nationale et locale, sélectionnée par votre ornithoquois.
Ça revient à casser le thermomètre pour guérir la fièvre, et ça ne marche pas. Estime Pierre Jugeaubert, professeur d'hématologie à l'université Claude Bernard Lyon 1 et aux hospices civils de Lyon. Le médecin est à l'origine, avec le chercheur du CNRS Marc Biot de la Tribune, dans le journal Le Monde, paru le 6 mai dernier pour alerter sur le nouveau plan éco-phyto annoncé par le gouvernement. En tout, 400 chercheurs et 200 soignants signent ce texte. Le 6 mai dernier, le plan Ecophyto 2030 destiné à réduire l'usage des pesticides en France a été présenté par le gouvernement, avec pour principale mesure la mise en place d'un nouvel indicateur réclamé par les agriculteurs, mais décrié par les associations de défense de l'environnement. Sous l'affichage d'une volonté de produire un nouveau plan Ecophyto, ce que le gouvernement propose, c'est de changer l'indicateur de mesure des pesticides. Ça revient à casser le thermomètre pour guérir la fièvre. Et ça ne marche pas. Par exemple, si on remplace 10 kg de DTT, un insecticide, par 1 kg d'imidacloprid, un autre insecticide, le nouvel indicateur que propose le gouvernement montrera une baisse de 90% de la quantité de pesticides. Or, l'effet sur les pollinisateurs comme sur les abeilles sera aggravé de l'ordre de 800 fois parce que le nouveau produit, même s'il est moins lourd, est beaucoup plus toxique. Sur l'indemnisation des victimes contenue dans le plan, eh bien, sur les premiers à encourager l'indemnisation des victimes des pesticides, mais c'est aussi un aveu de l'insuffisance du plan Ecophyto. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de victimes du tout, et non se contenter d'aller réparer les dégâts. Il y a une association, un lien épidémiologique tout à fait démontré entre l'usage des pesticides et certains cancers, notamment pédiatriques, mais aussi de l'adulte. Il y a des pesticides dangereux qui ont pu être retirés du marché grâce à des études scientifiques, et on s'en félicite. Mais il faut absolument qu'on continue dans cette direction, parce que sinon, dans les hôpitaux, on va continuer à voir des patients arriver avec des cancers qui auraient pu être évités. Le collectif de scientifiques a du mal à comprendre l'engagement fort d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat et les décisions prises sur le plan Ecophyto. La question des pesticides dépasse l'agriculture. Elle a engagé les scientifiques et les épidémiologistes. Il faut aussi écouter la voix des agriculteurs qui développent une agriculture sans pesticides, écouter la voix des projets collaboratifs comme celui que vient de lancer le CNRS pour une agriculture sans pesticides. Il en va de notre santé, de celle de nos enfants et de l'habilité de notre planète. L'habitabilité, c'est pas facile à dire ça. Les effets toxiques des pesticides ne se limitent pas à la survenue de cancers chez les humains. Il y a aussi la menace de la biodiversité. On ne peut que regretter les décisions politiques aussi lourdes aient pu être prises sans concertation large de tous les acteurs. La guerre en Ukraine a des conséquences insoupçonnées. Elle forcerait les aigles traversant le pays à modifier leur route migratoire pour éviter les zones touchées par le conflit. C'est ce que révèlent les chercheurs dans une nouvelle étude publiée dans la revue Current Biology. Et ces changements de trajectoire ne seraient pas sans conséquences pour ces espèces, dont certaines sont menacées. C'est notamment le cas de l'aigle criard, une espèce classée comme vulnérable par l'UICN. Les auteurs de l'étude ont expliqué d'après avoir équipé 19 individus d'émetteurs GPS, ils s'étaient aperçus que les rapaces faisaient de grands détours depuis le début de la guerre, réduisant également leur arrêt, que ce soit pour se nourrir ou se reposer. Concrètement, les trajectoires des aigles traversant l'Ukraine en direction de leur aire de reproduction dans le sud de la Biélorussie ont été analysées entre mars et avril 2022. Les résultats obtenus ont comparé aux migrations 2018 et 2021 avant le début du conflit. Il s'avère que les rapaces ont parcouru en moyenne 85 km supplémentaires après l'invasion, un oiseau ayant même rallongé son trajet de 250 km, pour en moyenne 55 heures de vol en plus. Enfin, si 90% des aigles faisaient escale en Ukraine avant la guerre, seuls 32% l'ont fait après l'invasion, certains sites étant même totalement évités. Les chercheurs soulignent les dangers d'un tel comportement. En agissant ainsi, les oiseaux ont mis plus de temps à atteindre leur aire de reproduction et ont probablement dépensé plus d'énergie pour y arriver. C'est un peu comme si vous couriez un marathon, mais que vous n'aviez pas de station de ravitaillement pour boire de l'eau à la fin. Et à la fin, quelqu'un vous demande de courir 12 000 à 13 000 km supplémentaires, a déclaré au Guardian Charles Russell de l'université d'East Anglia et co-auteur de l'étude. À cause de ces trajectoires modifiées et de ces vols rallongés, les chercheurs craignent que les aigles aient besoin de plus en plus de temps pour se remettre de leurs efforts et ou qu'ils aient exposés à un stress intense, retardant leur accouplement, un comportement qui pourrait ensuite affecter les chances de survie des aiglons car les proies pourraient être moins disponibles lorsque les œufs éclosent. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais il est important que nous comprenions les pressions exercées sur ces populations afin que dans un scénario post-conflit, nous puissions aider non seulement à soutenir de plus grandes populations d'aigles criards et à les aider à se rétablir, mais aussi les écosystèmes de leur ensemble, a indiqué Charlie Russell aux médias anglais.
Vocabupiaf. On vous explique le langage mystérieux des naturalistes.
Ce mois-ci, j'ai choisi un mot que j'aime bien, qui peut être utilisé pour différents sujets. Mais moi, je souhaite vous en parler à travers une question, la question environnementale. Ce mot, c'est résilience. Alors, la résilience écologique est la capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une population ou d'une espèce à retrouver un fonctionnement, un développement et un équilibre dynamique normal après une phase d'instabilité engendrée par les perturbations environnementales. L'écosystème forestier a, par exemple, la capacité de se reconstituer après un incendie ou une tempête grâce à une banque de graines contenues dans le sol ou à des propagules transportées par le vent, l'air, l'eau ou les animaux. C'est le cas généralement de la recolonisation d'un champ cultivé par des espèces sauvages après arrêt de la culture et de la recolonisation des friches urbaines ou industrielles polluées. Il est une réalité qu'on maltraite notre environnement depuis de nombreuses années. Mais la biodiversité est toujours là, mais même si elle va mal. Cela est dû à cette résilience qu'elle a pour résister. Dès qu'on aura fini nos conneries, pardon pour le vocabulaire, la nature devrait rapidement trouver la place qui est la sienne.
Naturo quiz.
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
C'est le moment de la réponse au Naturo Quiz. Il était question de trouver le nom d'un naturaliste italien à travers une charade. La voici. Mon premier n'est pas laid. Mon second est au milieu de la figure. Et je rejoins mon dernier chaque soir. Mon tout est un ornithologue qui a décrit mon espèce d'oiseau préféré. Alors, vous avez trouvé ? C'était le Bonelli, comme l'aigle de Bonelli. Franco Andrea Bonelli était un naturaliste italien du XVIIIe siècle. C'est lui qui a décrit pour la première fois en 1819 mon espèce d'oiseau préféré. Et c'est pour cela qu'elle porte son nom encore aujourd'hui. Allez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt!
Merci Lini. Eh bien, on va continuer cette émission de l'Ornithoquoi, toujours en direct sur Radio Escapade avec de la musique et Ben Harper.
Of your
L'oiseau futé.
À quoi bon me fracasser ?
Dit l'oiseau sachant chanter au chasseur sachant chasser qui voulait le fricasser.
Oh, qui voulait le fricasser ?
Si tu me fais trépasser, chasseur au cœur desséché, tu n'entendras plus chanter l'oiseau que tu pourchassais.
Si tu n'entendras plus chanter l'oiseau que tu pourchassais.
Mais le chasseur très froissé dit à l'oiseau tracassé.
Je n'aime pas la musique.
Il tire un coup de fusique. Le chasseur manque l'oiseau qui s'envole et qui se moque. Le chasseur se sent bien sot et l'oiseau lui fait la nique.
Après tout,
dit le chasseur,
j'aime beaucoup la musique.
Moi aussi,
dit le siffleur, se perchant sur le fusique.
Moi aussi.
Claude Roy.
Merci les enfants, ça fait du bien ces petites poésies au milieu de l'émission, je trouve, moi. On va continuer avec une interview. Je suis allé rencontrer Daniel et Cyril, qui sont tous les deux salariés du Centre ornithologique du Gard, le COGAR. Une association de protection de la nature dont le siège est à Nîmes. Allez, on va à Nîmes. Rencontre avec Homo sapiens.
Échange avec les acteurs du territoire qui contribuent à la préservation de la nature.
Je suis à Nîmes, dans les locaux du Centre ornithologique du Gard, le COGAR, avec Daniel Pizet et Cyril Sabran. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Lequel des deux commence ? Cyril ? Allez.
Donc moi, je suis Cyril Sabran, je suis le coordinateur du pôle conservation au Centre ornithologique du Gard. Je suis naturaliste, c'est-à-dire que j'étudie les oiseaux, mais pas que. Je suis spécialisé aussi dans les reptiles et les amphibiens, l'herpétologie. Je suis télépilote de drone aussi pour faire des suivis d'oiseaux. Et encore, j'ai d'autres cordes à mon arc, mais qui ne concernent pas mon travail.
Et toi, Daniel ?
Alors, moi, je suis salarié de l'association depuis 2002 maintenant, une bonne vingtaine d'années. Naturaliste, passionné de nature, je dirais au moins depuis l'adolescence, plutôt intéressé par les oiseaux à l'origine. Et un peu comme Cyril, je me suis intéressé à d'autres choses, notamment les insectes, les papillons de jour d'abord vers les années 2010, quelque chose comme ça, un peu les papillons de nuit, et je reviens dessus maintenant, et les orthoptères, les criquets, grillons, sauterelles, là. Donc plutôt des groupes d'invertébrés, qui sont aussi des bons indicateurs de la biodiversité, en plus des oiseaux, voire même peut-être des meilleurs, je sais pas.
Et spécialiste de loutarde.
Oui, voilà, et après j'ai été embauché en 2002 à l'origine, en effet... C'est à la fois une des grosses compétences de l'association, le COGAR, depuis les années 80-90, sur l'outarde canepetière, et qui est une espèce, entre guillemets, très abondante, enfin avec une dynamique particulière, et une responsabilité du coup du département et de la région, Languedoc-Roussillon et Occitanie maintenant, au niveau national, au moins au niveau national, voire européen.
Le COGAR, c'est quoi cette association? Donc une association de loi 1901, créée en 1980, je ne sais pas combien vous êtes d'adhérents aujourd'hui, de salariés, etc., les compétences, donc ça se tourne autour de trois. Connaître, communiquer, sensibiliser et protéger. Qui c'est qui se lance pour en dire un petit peu plus?
Allez, je sens que je vais m'y coller. Monsieur le directeur. Oui, c'est une association, comme tu l'as dit, là, créée dans les années 80, donc par des passionnés d'oiseaux, jeunes et fringants à l'époque. Donc on n'a pas réussi, grâce au Covid, ou à cause du Covid plutôt, à fêter les 40 ans de l'association, mais ça devient une vieille association, entre guillemets, une association ancienne, avec de la collecte de connaissances depuis le début. L'objectif, c'était vraiment que les oiseaux, d'où le nom ornithologique qui est resté. On n'a pas changé le nom de l'association.
Alors que vous avez élargi vos...
C'est ça. Alors que, donc, à l'origine, c'était vraiment que ornithologique, ouais. Des passionnés d'oiseaux, qui étaient une partie, entre guillemets, de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes et du Gard, qui ont fait une association à part entière en 1980, qui s'intéressait que aux oiseaux. Et dès l'origine, les fondateurs collectaient des informations, des données, des observations. Au bout d'une dizaine d'années, ils ont publié un atlas. Enfin, voilà. Il y a vraiment un objectif concret, mené que par des bénévoles à l'époque, encore une fois, d'accumulation, de centralisation, de connaissances, de cartographie, etc. C'est vraiment...
Le gros axe de l'association à l'époque, c'était la connaissance.
C'est ça. Après, les objectifs statutaires, tu l'as dit, c'est entre guillemets connaître, donc suivre, etc., les oiseaux à l'époque et maintenant le reste de la faune. C'est également informer, sensibiliser. L'autre particularité de l'association, c'est d'avoir publié des livres, des cartes postales, des cartes, enfin voilà, l'un des fondateurs était dans ce métier-là et savait faire, entre guillemets, avait accès, et ça a quand même été une des particularités, un livre de Tamisier sur les canaries fous de Camargue, enfin voilà, vraiment un volet édition, auto-édition, publication de livres, c'est l'une des particularités. Et le troisième axe, en effet, c'était protéger dans les statuts, c'est donc agir, je dirais, concrètement, au-delà de savoir ce qui se passe et de dire aux gens, entre guillemets, quel que soit le public, ce qu'on a observé, c'est essayer d'agir pour protéger les oiseaux à l'origine et maintenant la biodiversité au sens large.
Ok. Et vos moyens, je parlais des adhérents, mais il y a aussi des salariés. Enfin, comment vous fonctionnez par rapport à tout ça? Cyril, tu veux parler un petit peu quand même?
Oui. Alors, on a deux pôles, un pôle conservation, un pôle sensibilisation. On est 16 salariés, si je ne dis pas de bêtises, avec des apprentis et des stagiaires quasiment toute l'année. Et donc, un pôle sensibilisation avec 5 personnes actuellement et un pôle conservation. On est 8. 8 sans compter l'apprenti et les stagiaires. Et donc, on se répartit le travail à faire et notamment aussi les zonages du Gard.
Et du coup, quand tu parles de conservation, le parti connaissance rentre dedans aussi également?
Oui, on fait du relevé d'espèces et d'habitats et on engrange de la connaissance en base de données qui va permettre après d'utiliser cette connaissance pour la protection justement et la sensibilisation aussi dans un second temps.
Et ça, c'est donc pour la partie salariée de la structure. Et donc, il y a un nombre d'adhérents actifs, bénévoles et tout ça?
Oui, alors là, on a, enfin, comme pas mal d'associations, ça a nettement augmenté. Moi, je vais faire le vieux depuis les années 2002. Avant, j'étais même adhérent. Moi, j'ai connu l'association avec un nombre d'adhérents à 100, 150 à peu près tous les ans, là, dans les années 2000, disons. Et depuis, alors, effet Covid ou pas effet Covid, il y a une forte augmentation du nombre d'adhérents au COGAR, comme dans d'autres associations dans le Gard ou ailleurs en France. Là, on est à 260 adhérents, quelque chose comme ça, au début 2024. Donc, quasiment double. Le nombre d'adhérents en quelques années, en 3-4 ans.
Il y a un intérêt pour le grand public à adhérer à des associations ?
Visiblement, puisque les gens adhèrent, les gens viennent participer aux sorties, etc.
Et après, c'est quel type de public ? C'est qui ces nouveaux adhérents ?
Alors, c'est pas moi qui le connais le mieux, entre guillemets, c'est plutôt les gens de l'équipe sensibilisation dont parlait Cyril, là. Mais je dirais qu'il y a, un peu, enfin, de ce que je connais moi, encore une fois, avec des pincettes, hein, il y a à la fois quelques jeunes, plus ou moins jeunes, actifs, etc., ce qui est relativement nouveau par rapport aux années 2000, là, c'était quand même vraiment l'exception. Également des gens à la retraite, curieux, soutien, etc.
Comme il y a toujours eu, ça.
Comme il y a toujours eu, voilà, c'est ça. Et par contre, ce qui fait défaut, entre guillemets, au-delà de ce nombre d'adhérents, les gens qui payent tous les ans une cotisation à l'association, c'est les personnes actives qui prennent en charge, entre guillemets, une action, un stand, un comptage, je sais pas quoi. Là, par contre, on est plutôt sur un peu toujours les mêmes personnes qui font de plus en plus de choses ou qui arrivent encore à faire ce qu'ils faisaient depuis 10 ou 20 ans. Il n'y a pas vraiment de relève, là aussi, au COGAR comme dans d'autres associations. Hein. C'est un peu ce qui manque, c'est le côté actif, responsabilité, administrateur. Mais j'imagine que ça va venir. Les gens adhèrent là depuis quelques 4 ou 5 ans, ils connaissent l'association, ils participent aux activités, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, ils oseront, entre guillemets, mettre la main à la pâte et donner des coups de main, quoi.
Et pour les auditeurs, s'il y a des auditeurs là, qui nous écoutent, qui voudraient adhérer à l'association et puis justement s'investir, c'est quoi comment on fait ?
On a un site internet, hein, cogar.org, dans lequel on peut trouver pas mal d'informations. Et en fait, en général, les nouveaux adhérents vont participer à des sorties organisées par le pôle sensibilisation. Et une fois qu'on a adhéré, on rentre dans les listes de discussion internes au Cogar. Et on a des appels des appels à l'aide pour les grands types de suivi. On va demander de l'aide parce qu'il faut qu'on soit nombreux. Et là, les nouveaux adhérents, qu'ils soient connaisseurs ou pas, peuvent participer et vont aller avec des connaisseurs, créer des équipes et aller sur le terrain pour faire des relevés. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est d'apprendre ou de venir faire profiter les autres de ces connaissances.
Et il y en a dans les Cévennes, parce que nos auditeurs sont plutôt Cévenols. Question piège pour les deux Nîmois.
En tout cas, je dirais que la bonne démarche, c'est ça. C'est en effet, une fois adhéré, aller consulter notamment l'agenda des activités, là, que ce soit des sorties. Il y a même des soirées-jeux, alors qu'ils ne sont pas dans les Cévennes, qui sont à Saint-Chapt. Hein. C'est à une demi-heure de route, selon où on est dans les Cévennes, évidemment.
Ça peut être long, les Cévennes.
Hein. Voilà, c'est pour ça que je prends des précautions. Mais voilà, le meilleur moyen, en tout cas, c'est de venir participer aux activités, quelles qu'elles soient. Comme dit Cyril, apprendre, etc. Et ne serait-ce déjà que connaître les gens adhérents de l'association, actifs ou pas, près de chez soi. Quoi. Okay. Après, dans les Cévennes en particulier, on a pas mal inversement, je dirais, par rapport à la population, pour dire ça comme ça, sans vouloir vexer personne. Il y a plutôt des personnes anciennes dans l'association, très compétentes et qui font plein de choses. Saint-Thipault, Sumène, Saint-Martial, dans ces coins-là, Le Vigan, etc. J'ai pas en tête tous les adhérents et toutes les localisations. Et qui se connaissent entre elles, je dirais, qui font des sorties, même en dehors de l'association, qui vont prendre leur voiture pour aller voir les oiseaux sur le Costruc, le Montégoal ou les vautours dans les gorges du Tarn, quoi. Donc la bonne porte d'entrée, en effet, c'est de connaître soit les activités de l'association, soit les gens qui sont adhérents proches de chez soi, pour pas se retrouver isolé ou spectateur, entre guillemets, des activités de l'association. Hein.
Okay. Il n'y avait pas d'action spécifique dans les Cévennes ?
Pas plus. Pas plus, en fait, l'essentiel des Cévennes est quand même couverte par le parc national des Cévennes, zone cœur ou zone périphérique, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Mais...
Zone d'adhésion.
Zone d'adhésion, merci. Pour les communes qui ont adhéré, enfin bref, voilà. Donc en fait, l'essentiel des activités de connaissance, de protection, voire même d'information, sont quand même assurées sur ces secteurs-là ou les communes qui ont adhéré, en tout cas à la charte du parc, là, par le parc lui-même. L'actualité, entre guillemets, en Cévennes, cette année-là, et pour 300, c'est l'ABC qui démarre à Crosse, par exemple.
ABC, c'est quoi ?
ABC, pardon, c'est du jargon, c'est un acronyme. L'Atlas de la biodiversité communale, c'est une démarche nationale qui doit remonter aux années 2010, Ségolène Royal, etc., etc. De connaissance à une échelle communale, en fait. C'est une initiative de la commune qui a envie de savoir tout ce qui est connu, existant, en tout cas tout ce qu'on arrive à recenser, en faune et en flore, c'est pas que les oiseaux, c'est pas que la faune, à l'échelle d'une commune, faire le bilan des connaissances qui existent déjà, rechercher, combler les trous, aller voir des choses qui ne sont pas connues. Et l'objectif final, au niveau communal et du conseil municipal, c'est un plan d'action, c'est-à-dire, on a découvert, par exemple, des chauves-souris dans le grenier, on va essayer de ne pas aller faire n'importe quoi dans le grenier, quand les chauves-souris sont là, que ce soit en hiver ou en reproduction. Il y a une rivière avec des libellules, on va essayer de faire attention au niveau d'eau, aux travaux, à la berge, à la ripisine, etc. L'objectif final, c'est quand même une action de la part de la commune, ce qui relève de la commune. Ça peut être les espaces verts, les bâtiments communaux, des propriétés, etc. Et le moyen d'arriver à ça, c'est aussi de toucher les habitants, habitantes de la commune, voire ceux qui sont autour et qui viennent dans la commune.
Et donc là, il y en a un cross en ce moment.
C'est ça, ça a démarré ce début d'année. Le COGAR est impliqué aux côtés de la commune de Cross. Il y a les écologistes de Lozière qui participent également. Il y a des conférences, il y a des sorties. Enfin voilà, ça peut être une bonne, encore une fois, porte d'entrée ou occasion de découvrir la nature ou les
et
professionnels.
Et rencontrer les gens aussi qui partageaient ça.
C'est ça, exactement. Que ce soit des habitants, pas forcément adhérents de l'association, qui sont intéressés, qui ont envie d'apprendre, etc. Que ce soit, je disais, des cévenols adhérents de l'association qui connaissent bien les oiseaux, les papillons, ceci, cela. Ou des personnes d'autres structures professionnelles ou intéressées également.
Ok. On va parler d'oiseaux un peu, ça vous va ? Sur la table, là, il y a l'Atlas des oiseaux du Gard, qui est un bouquin qui a quelques années maintenant, qui présente donc l'avifaune du département du Gard. Je crois qu'il est encore à peu près à jour dans les grandes lignes. Il y a un de vous deux, ou tous les deux, qui voulait faire une petite présentation de l'avifaune du Gard. Vous avez le temps que vous voulez.
Alors déjà, juste pour replacer cet ouvrage, c'est un ouvrage collectif qui a été fait par les adhérents du COGAR. Donc il y avait dans les adhérents et dans l'équipe qui l'ont fait, l'équipe salariée, mais aussi donc énormément d'adhérents bénévoles qui sont allés faire les prospections sur le terrain pendant presque 10 ans, on a mis, et qui ont participé à écrire les monographies et vraiment à faire le contenu de cet atlas. Donc c'est un ouvrage collectif et qui est pour nous, c'est la référence dans le Gard. Hein. On s'en sert tous les jours dans le cadre de nos travaux, parce qu'on a on a l'évolution de ces oiseaux depuis 93. Il y a des comparaisons avec l'atlas réalisé en 1993 et l'évolution des oiseaux donc depuis cette date-là. Ça fait que ça nous permet de voir un petit peu quelle ligne on suit, si c'est une ligne ascendante pour la conservation des oiseaux ou si les espèces ont commencé à moins bien se porter, et ça nous permet de voir bien les tendances.
Et du coup, en quelques mots, en quelques chiffres, je sais pas s'il y a des chiffres annoncés par rapport au nombre d'espèces, non, vous n'avez pas ça, ou en quelques mots peut-être. Je sais pas, de la Camargue au Montégoal, il doit bien avoir des particularités cœur, dans le département.
Je ne les ai pas appris par cœur, mais tout est écrit dans le livre, c'est l'avantage.
Livre, on peut. Attends, petite pause de publicité, ou est-ce qu'on peut, encore le trouver, ce livre? Et si oui, où?
Alors, il nous reste quelques dizaines d'exemplaires. On est un peu à la fin des stocks de ce qu'on avait imprimé fin 2019. Là, on avait imprimé 2200 exemplaires, je crois. Il doit y avoir quelques librairies, dans mon souvenir, notamment la librairie du Vigan, si je ne me trompe pas, le Pouzadou. Il y a quelques librairies qui l'ont en dépôt-vente, en tout cas, enfin, en vente pour les clients ou les clients de la librairie. Et après, sinon, nous, on l'expédie sur commande, nous, association, je crois que c'est par Eloasso, si je ne me trompe pas, le moyen de commander pour qu'on l'envoie par correspondance. Et sinon, dans les deux locaux, à Saint-Chapt et à Nîmes, on n'a pas dit que les deux pôles étaient dans deux locaux différents.
Ok, donc on revient à nos chiffres que tu as retrouvés.
Ouais,
page 381.
C'est ça. Alors, je montre à la radio, page 381, vous voyez bien le graphique. On a comparé, entre guillemets, donc encore une fois, comme disait Cyril, et c'est l'intérêt de cet ouvrage, c'est de comparer la situation des oiseaux entre 2009 et 2015, donc les prospections dont parlait Cyril, par rapport à ce qui avait été fait en 1985-1993. C'était le premier ouvrage de l'association, là, l'Atlas biogéographique. En 85-93, il s'est intéressé que aux oiseaux nicheurs. Et là, en 2009-2015, on s'est intéressé à tous les oiseaux qui étaient observés dans les limites administratives du département du Gard.
Donc, un oiseau nicheur, c'est quoi ?
Un oiseau nicheur, c'est un oiseau qui se reproduit. Pardon, ça nous paraît
évident. On parle entre nous, mais...
C'est ça, ouais. Un oiseau nicheur, c'est un oiseau qui s'arrête en couple, a priori, pour construire un nid au minimum, pondre des œufs si possible, et dans l'idéal, élever des jeunes qui vont s'envoler. Voilà.
Ça, nous intéresse, nous, les ornithologues.
Bah, c'est ce qui intéresse le plus parce que ça permet de décrire l'habitat en fait. L'oiseau nicheur, sauf exception, espèce généraliste, etc., il est lié à un habitat, il est lié à des ressources alimentaires, il y a des comportements entre les individus de cette même espèce, etc. Il apporte plus d'informations sur là où il est, pour dire ça comme ça, qu'il soit dans une prairie, une montagne, une falaise au bord de la mer, qu'un oiseau qui passe en vol parce qu'il est migrateur. Par exemple, les grues, elles survolent tous les ans le département du Gard ou de passages migratoires. Il y en a quelques-unes qui hivernent depuis 10 ou 20 ans, mais le fait qu'elles passent au-dessus du département du Gard, elles peuvent passer au-dessus d'un parking, d'une agglomération, comme au-dessus d'une magnifique prairie d'altitude ou d'une rivière. Enfin voilà, elles n'ont pas de lien, entre guillemets, avec ce qu'il y a au sol sur l'habitat.
Ouais. Okay.
C'est l'intérêt des oiseaux nicheurs qui ont vraiment un lien fort et qui apportent des informations. En fait, l'évolution des oiseaux nicheurs apporte des informations sur l'évolution des habitats, des milieux, des paysages dans le département du Gard. C'est ce qui nous intéresse ou ce sur quoi on travaille.
Et donc l'évolution dans...
Donc l'évolution, ce qu'on a, on y arrive, on va y arriver à la page 380. La dynamique des populations qu'on a de 196 espèces, donc c'est bien les oiseaux nicheurs auxquels on s'intéresse là, entre 85 et 93, on a entre guillemets trois grandes catégories. Il y a les espèces qui n'ont pas évolué, qui étaient nicheuses dans les années 90, qui le sont toujours dans les années 2010-2020, 66, donc à peu près un tiers des 196, la nicheuse. On a des populations, des espèces qui sont à la hausse, alors soit de façon numérique, il y a plus de couples que ce qu'il y avait dans les années 90, soit elles sont plus réparties sur le département. Elles étaient que en plaine, elles sont montées en altitude, ou elles étaient que à l'intérieur, elles sont allées sur le littoral, etc. Donc les populations à la hausse, c'est une soixantaine d'espèces, c'est grosso modo un autre tiers aussi. Et la dernière catégorie qui malheureusement nous préoccupe le plus et qui justifie nos actions, etc., c'est les populations à la baisse. Donc là, inversement, dans les années 2010, on a moins d'oiseaux, soit en quantité, soit des oiseaux moins répartis, moins abondants sur le territoire gardois. Sachant que parmi ces... Donc ça, c'est 70, pardon, je ne l'ai pas dit, 70. Donc la majorité de l'évolution, là, sur les 186 espèces, 196, pardon, c'est quand même des populations qui diminuent. Et là-dedans, il y a quand même 14 espèces qui ont disparu entre 1990 et 2010, pardon, sur le département du Gard. Il y a 14 espèces qui ont disparu, alors qu'il y en avait 15 qui sont apparues, entre guillemets, nouvelles espèces dans les années 2010.
C'est équilibre, non ?
Ça s'équilibre, sauf que c'est pas les mêmes espèces. Ouais. C'est là que c'est intéressant de regarder et de voir ce qui se passe sur les oiseaux nicheurs. En fait, les espèces qui disparaissent dans le Gard, mais c'est pas original par rapport au sud de la France ou au reste de la France, hein, c'est des espèces plutôt spécialisées. C'est généralement des migratrices parce qu'elles sont insectivores au niveau de la ressource alimentaire. Donc et qui sont souvent présentes entre guillemets que là en Europe, en France, etc. Donc c'est des espèces plus localisées, plus précieuses et vraiment beaucoup plus limitées à l'habitat. Si elles sont présentes uniquement sur les dunes et que les dunes disparaissent, ben il y a plus cette espèce là ou en tout cas elle peut plus se reproduire. Pareil sur les pelouses, sur les côtes, sur les pelouses alpines, les falaises ou autres. Alors que celles qui arrivent, au contraire, pardon de le dire comme ça, c'est plutôt des espèces ubiquistes, généralistes, qui ne sont pas liées à un habitat, à une ressource alimentaire. C'est plutôt les espèces qui sont présentes ailleurs que dans le Gard, en France, en Europe, qui peuvent être présentes sur toute la Terre. Ça peut être des espèces même carrément, on appelle ça exotiques, envahissantes, la perruche à collier, des canards de chasse, entre guillemets, relâchés, qui finissent par s'implanter, par se reproduire, les oies diverses et variées, enfin les anatidés diverses et variées. Donc de notre point de vue, en tout cas nous, naturalistes, écologues, ça a beaucoup plus de poids, la disparition d'espèces spécialisées vraiment locales liées aux habitats gardois ou méditerranéens ou français, que l'apparition d'espèces qui sont en train de coloniser en fait la France, voire la Terre entière.
Et justement, la situation, tu parlais d'espèces qui diminuent, mais d'autres qui apparaissent, globalement la situation elle est plutôt négative, j'ai l'impression. Et quelles en seraient les raisons, si on les connaît, localement et puis peut-être à plus large échelle ?
Oh oui, il y a une forte régression hein, de toutes les espèces. Là, on parle des oiseaux, mais pas que les oiseaux. Hein, c'est de la biodiversité au sens large. Et dans les raisons, bah, c'est les pertes d'habitat hein, essentiellement. Et alors, les pertes d'habitat, ça peut avoir plusieurs.
Tu parles de raisons locales, là, enfin, à l'échelle du Gard ou
bah, au-delà. C'est au-delà. Ce serait en France, enfin, dans le monde et à l'échelle du Gard. Et les pertes d'habitat, bah, ça, bon, on parle tout le temps du réchauffement climatique qui fait que certains habitats disparaissent, se transforment. Et on a aussi bah, l'artificialisation des milieux, l'utilisation de tous ces habitats par l'homme qui va dégrader certains milieux et pousser les oiseaux à aller encore et toujours plus loin et à se déplacer bah, sur le territoire. Et c'est comme ça qu'on peut perdre certains couples. Et on va avoir une accumulation de pression qui va. C'est pas une seule en général pression qui va faire disparaître l'espèce, mais.
C'est multifactoriel, ouais.
Oui, ouais.
Et du coup, dans le Gard, on est bien concerné par cette histoire de perte d'habitat ou par rapport à des départements ? Est-ce qu'on a une idée de ça ? Et quelles seraient les. Enfin, c'est l'urbanisation, c'est les constructions d'infrastructures, d'autres choses ? Des plateformes logistiques.
Oui, je vois à quoi tu, peux penser.
Des parcs photovoltaïques.
Oui, oui.
Les éoliennes, dans ça, on n'en a pas trop.
Les éoliennes, on n'en a pas trop. On peut dire ça comme ça, voire même très peu.
Cinq,
c'est ça, ça peut nous être reproché par les services de l'État, enfin pas à nous, association, hein, mais on est plutôt le mauvais élève départemental là-dessus. Mais oui, est-ce qu'on est plus concerné que les autres ? Moi, on en parlera peut-être. Sur le côté régional, là, depuis 20 ans, tu le disais, je suis devenu, pour dire comme ça, spécialiste de l'outarde canepetière à un niveau régional. Donc, j'ai une vision un peu plus régionale, en tout cas, de ce qui se passe en termes de menaces de perte d'habitat sur les espèces au travers de l'outarde canepetière, qui est une espèce présente dans les milieux agricoles.
Les milieux agricoles qui sont sous pression.
C'est ça. Et en tout cas, et qui est présente dans la même frange, en, je dirais, ex-région Languedoc-Roussillon, pour dire clairement et, entre guillemets, exclure la Lozère, ou elle est vraiment anecdotique, entre guillemets, la présence de l'espèce où elle est plutôt disparue en Lozère, l'outarde canepetière, depuis 30 ou 40 ans. Mais la présence, les milieux agricoles, essentiellement viticoles, pleines d'arrière-pays, là, c'est là qu'il y a le plus aussi de pression, de construction, que ce soit l'urbanisation, le développement des agglomérations, des villages, enfin voilà, l'urbanisation, comme tu disais, ça peut être des acs, ça peut être différentes choses, des déviations, enfin plein de liés à l'expansion urbaine. Ça peut être également des aménagements dont on parle. Infrastructures, parcs photovoltaïques, ça peut être du mitage avec un petit hangar par-ci, une petite villa par-là, enfin voilà. Et c'est là que se concentre l'essentiel de la dynamique à la fois urbanisation, logement, etc. et grignotage, entre guillemets, perte des habitats. Et ça, c'est vraiment de la pression humaine, c'est indépendamment de l'évolution des milieux agricoles. C'est juste que les milieux agricoles disparaissent petit à petit dans le Gard, comme ailleurs en région, voire en France. Mais en tout cas dans la partie pleine encore une fois de caractéristiques méditerranéennes c'est vraiment là que se fait la croissance économique, le développement qui est l'essentiel des populations, des pressions, enfin voilà, projets de prison, enfin des hangars logistiques, d'en parler, enfin il y a quantité entre guillemets de projets au minimum, et au-delà des projets de réalisation ces années passées et sans doute les années à venir.
Et la loi ZAN dans tout ça, là, la zéro artificialisation nette.
On en entend parler notamment à la CDPNAF, on siège en CDPNAF, c'est moi qui y suis avec le président et un autre administrateur. Voilà, c'est un objectif qui, de ce qu'on voit en CDPNAF, j'ai pas fait l'acronyme, la commission départementale de consommation des espaces forestiers agricoles, si je me trompe pas dans
Merci.
L'ordre des petites lettres. On voit passer les documents d'urbanisme, donc PLU notamment, dans le Gard, qui sont pas dans les SCOT. Alors SCOT, c'est un schéma, ouais, là, les acronymes.
Schéma de cohérence territoriale.
Exactement. Quand il y a un SCOT qui est approuvé, en vigueur, etc., ce qui est le cas sur le Sud-Gard, ce qui est le cas sur le Bagnolet, je ne sais plus exactement l'intitulé du SCOT, ce qui est le cas sur le bassin d'Avignon, qui a une partie dans le Gard, etc., à ce moment-là, les projets de chaque commune ou de chaque petit projet, entre guillemets, là, enfin petit ou pas, ZAC, prison, je ne sais pas quoi, machin, sont prévus à l'échelle de ce SCOT-là, qui est grosso modo l'échelle d'une aglo, et sont traduit à l'échelle de chaque commune. Du coup, ils sont plus vus dans cette commission qui est une commission Grenelle avec des représentants socioprofessionnels de à peu près tous horizons, je dirais. Et en dehors de ça, les documents d'urbanisme, une commune qui a un poste et qui veut passer en PLU, montrent, entre guillemets, est soumis à cette approbation, à cet avis de cette commission départementale préfectorale. Plus les projets de permis de construire ponctuels, etc., dans, encore une fois, des communes ou, qui sont hors SCOT ou hors PLU. Et en tout cas, dans cette commission-là, on voit arriver, moi ça doit faire une petite dizaine d'années que j'y suis, on voit arriver des documents d'urbanisme qui sont quand même plus vertueux par rapport aux postes anciens qui, par exemple, prévoyaient d'urbaniser 150 hectares sur, je dirais, un petit village. Là, ils nous disent on a diminué par la moitié, on a diminué des deux tiers, on prévoit plus que d'urbaniser 15 hectares. Mais l'horizon ZAN zéro artificialisation nette, là, il est pour 2050, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, c'est un objectif lointain. En tout cas, avant cette loi-là, les communes ont pris conscience qu'il fallait remplir les dents creuses, qu'il fallait arrêter de s'étaler, etc., depuis quelques dizaines d'années. La consommation d'espaces, qu'ils soient naturels, agricoles, en périphérie ou autour des hameaux, etc., c'est, en tout cas, dans la planification, c'est nettement diminué. Dans la réalité, elle diminue, elle ralentit, mais on est encore très loin, à mon avis, malheureusement, du zéro artificialisation nette, quoi. On a vu récemment passer le SCOT, alors je ne me souviens plus du nom exact, je dirais de la plaine de Lédignan, La Salle, Saint-Thibault, etc. Piémont-Cévenol, merci. C'était la semaine dernière ou il y a 15 jours en CDP9, justement, cette commission-là. Ils ont un objectif assez ambitieux jusqu'à 2040 où ils réduisent par 50% à peu près la consommation. Et par contre, de 2040 à 2050, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Ils espèrent grosso modo, alors je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ils espèrent que l'échéance du 2050 sera repoussée. Donc ils respectent le calendrier des 10 prochaines années par rapport aux injonctions régionales, etc. Je ne parlerai pas du SRADET parce que je ne connais pas le nom de l'acronyme, mais après, voilà. En tout cas, dans le document de planification à 20 ans, à la fin des 20 ans à 2050, ils n'ont pas prévu zéro d'artificialisation nette, quoi. Ouais. À partir de 2050, les zéros, c'est à partir de 2050. Jusqu'à 2050, on consomme encore. Donc voilà. Bon. En résumé, ça se ralentit, mais il y a toujours de la consommation, disparition. C'est plutôt moins impactant, moins pire, etc., hein, que ce qu'il y avait dans les années 90-2000, où c'était quand même du délire, là. L'étalement urbain, les lotissements partout, hein. Au moins en plaine, encore une fois, dans la frange un peu arrière-pays. Mais on est encore loin du zéro. Hein.
Ok. Au-delà de l'urbanisation, de l'artificialisation des sols, est-ce qu'il y a d'autres menaces qui menacent la vie faune ici, localement? Je pense par exemple à l'agriculture intensive, sans vouloir orienter la question.
Ouais, un petit peu quand même.
La fermeture des milieux.
Oui, la fermeture des milieux, oui, c'est une chose.
Quelque chose qu'on ne parle pas souvent.
Agriculture intensive, dans le Gard, quand même, on est encore un petit peu épargné par rapport à d'autres départements ou régions. Mais effectivement, là-dessus, on a des destructions d'habitat. Par exemple, les petites haies qu'il y a, on parle beaucoup de haies en ce moment. Mm-hmm. Les petites haies qui vont être entre les parcelles, là, c'est des choses qui vont être détruites pour pouvoir gagner de l'espace. Et ça, ça va impacter par exemple les pigrièches. Il y a plusieurs pigrièches, la pigrièche méridionale ou pigrièche à tête rousse. C'est quelque chose qu'on voit en pleine. Okay. Et dans les dégradations de milieux autres que l'artificialisation, on a un phénomène naturel aussi en ce moment qui se passe pour la partie sud du Gard. On est loin des Cévennes, hein, mais c'est les remontées de sel, par exemple, qui dans toute la Camargue, hein, qui avec la remontée du niveau de la mer, qui fait que les roselières sont en cours de dégradation et on va perdre des habitats. Le trait de côte devrait remonter, mais avec le trait de côte, les remontées de sel aussi dans les zones où on n'avait que de l'eau douce jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est des phénomènes
du réchauffement climatique.
Voilà, ça fait partie des effets qu'on, celui-là, on le voit, on le mesure. Il y en a d'autres qu'on ne mesure pas, mais qu'on voit et qu'on n'arrive pas à expliquer.
Okay. J'avais d'autres questions, mais on arrive un peu au bout de l'interview. Pour finir, chacun à votre tour, une espèce pépite, un oiseau ou autre chose, hein, c'est le centre ornithologique du Gard, vous pouvez prendre un oiseau, mais vous n'êtes pas obligé. Puis une petite anecdote, une petite histoire avec cette espèce qui commence.
Ouais, je peux m'y coller, mais j'avoue que ce qui me vient en premier en mémoire, c'est plutôt l'outarde. Comme de par hasard, c'est ça. Ça doit être celle que j'ai le plus cherché, regardé, observé aussi.
Pas trop dans les Cévennes.
Bon, et puis c'est pas typique des Cévennes, ça va vous faire voyager ou rêver, ou je sais pas. C'est quand même cette outarde canepetière, là, pour ceux qui connaissent pas, c'est un oiseau vraiment particulier, des milieux steppiques à l'origine, là, type Crocs ou Kazakhstan, beaucoup plus loin que chez nous, qui s'est bien adapté au milieu agricole chez nous.
Ça
en fait.
Ressemble à quoi, une outarde?
Alors, ça ressemble à, je sais pas, en termes de taille, à une grosse poule faisane ou quelque chose comme ça. J'ai pas du tout en tête ni les poids ni les mensurations. Et avec un mâle qui est entre guillemets contrasté, noir et blanc, quelque chose comme ça. Et les femelles et les jeunes qui sont plutôt camouflés, bruns, voire même très mimétiques, là. Et ce qu'on compte dans cette espèce là, ce qu'on va chercher à compter, et ce que j'ai fait pendant pas mal de temps, c'est compter les mâles chanteurs. En fait, dans cette espèce là, donc c'est plutôt un gros oiseau de plaine qui va nicher au sol. Les mâles vont délimiter un territoire un peu comme tous les oiseaux, hein, les oiseaux qui chantent, le rossignol, etc. C'est pas que pour le plaisir des oreilles. Sauf que dans cette espèce là, la particularité de faire ce qu'on appelle des lecs, en tout cas des concentrations de mâles, un peu comme les grands tétras. Là, on se rapproche un peu du patrimoine de l'égual. Il y a longtemps, les mâles vont chanter les uns par rapport aux autres, vont délimiter un territoire, se répondre, se regarder, etc. Et c'est les femelles qui vont venir choisir les mâles et s'accoupler et après élever entre guillemets toutes seules les jeunes dans de la végétation haute. Donc en fait, pendant des années, des journées, des printemps, moi comme les collègues, hein, pas que moi, on est allé chercher à voir, à entendre. Donc c'est un oiseau qu'on voit, mais on entend le chant, qui est un espèce de petit P, hein, c'est pas forcément, c'est beaucoup moins mélodieux que le rossignol, ce qui permet de compter le nombre de mâles et de voir ce qu'on disait, l'évolution au fil des années, etc., de savoir où ils sont. Et la dernière particularité de cette espèce-là et du mâle en particulier, il y en a au moins deux, c'est qu'en plus de chanter, le chant s'émet en balançant le cou en arrière, en fait ça fait cette espèce de petit bruit de P. Mais un certain nombre de mâles, ce que moi je voyais très peu en Méditerranée, qui était très connu sur les populations de cette espèce-là, plutôt en centre-ouest, Poitou-Charentes, saute sur place en fait en battant des ailes. Et la dernière particularité, c'est sur les ailes, les mâles ont une rémige qui est émarginée, il manque un petit bout de la rémige pour dire ça comme ça, et du coup quand ils battent des ailes ou même quand ils sont en vol, ça met un petit sifflement, un son qu'on perçoit comme un sifflement. Et donc l'anecdote, c'est que j'étais en train de compter ces oiseaux-là, alors je sais plus du tout quelle année, 2005, 2004, enfin dans ces années-là, dans les années 2000, là, près de Bouillargues, si je me souviens bien, je l'entendais chanter dans une prairie bien haute, début mai, voilà, on est au début du printemps, pas encore à l'été. Donc j'entendais ce mâle chanter, et j'entendais le sifflement des ailes, en fait. Et ce qui veut dire que le mâle sautait sur place, c'est comportement particulier qu'on voit en photo, en vidéo, enfin c'est assez étonnant, assez fascinant, il y a très peu d'oiseaux qui font ça dans les autres familles d'oiseaux. Donc en fait je l'entendais chanter avec le petit P, le sifflement des ailes, mais je ne le voyais pas. Il était perdu dans la végétation haute, dans herbacée, et c'était l'une des premières fois, enfin je connaissais la théorie de, vous connaissez les images là, du saut, du chant, etc., mais dans le Gard j'avais jamais vu, jamais entendu ça quoi. Et ben, je m'en souviens encore 20 ans après.
Et toi Cyril?
Alors moi c'est pas l'outarde et son chant mélodieux. Moi ce serait un reptile, le lézard osselé, qui est une espèce, un gros, très gros lézard, enfin le plus gros lézard européen qu'on puisse voir. Et dans les anecdotes, c'est un lézard qu'on reconnaît, qui est donc de grosse taille et qui a des ocelles bleues, des ronds bleus sur les côtés, et qui vit plutôt dans les milieux ouverts. Souvent on le confond avec le lézard vert, qui s'appelle le lézard adoré occidental, mais qui lézard vert est plutôt dans les milieux cévenol, justement, il est plutôt dans les milieux forestiers touffus, alors que le lézard osselé, on va le retrouver en milieu ouvert. Et ce lézard bénéficie d'un plan national d'action. Donc, dans les anecdotes, je me rappelle notamment qu'on passait des journées à essayer de le chercher. C'est très très discret, c'est pas évident. Alors, on bartassait toute la journée dans de la garrigue, dans des habitats pas possibles, en essayant de le repérer sur son gîte ou sur des postes d'insolation. Et après avoir passé plusieurs jours sans en voir, en allant boire l'apéritif à base d'eau le soir chez un collègue, on parlait de nos journées à avoir vu plein d'autres choses, mais sauf le lézard, on entendait un bruit derrière nous sur le toit, et en fait c'était un lézard osselé qui était venu nous regarder, voilà. Et on avait passé
un peu de fou, quoi.
Ouais, c'était complètement ça. Et bon, bah donc c'était, on s'est dit bon, bah, on n'est pas totalement malchanceux, quoi.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci. À bientôt.
Eh bien, merci à Cyril et merci à Daniel pour cette longue interview. On a appris plein de choses. On va continuer cette émission de l'Ornithoquois sur Radio Escapade en musique.
Bonsoir. Jetait plus nos papiers dans les rues. Le petit balayeur ne travaillerait plus. Au bord de ton veston, les lèvres endormies, il a une tête qui fume son clope et l'autre main qui nettoie la capitale. Posé sur ton talon, à niveau des senteurs d'aurore sur la terre qui dort. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai peut-être 100 ans. Dans un jour, une fois, plus tard, mais qu'importe, on se retrouvera dans la même maison. Nos papiers dans les rues, le petit balayeur met sa belle tenue. Sur la blanche saison, les feuilles étourdies, l'œil d'un matin gris dans les goûts qui clapotent, les regrets déversés de la capitale, les cœurs dans les pochons. On met lettres froissées, mes amours d'aurore, poussent les pigeons morts. J'ai 100 ans dans 1000 ans, peut-être entre-temps, entre tous les passants, vers la même porte, ton blason, c'est toujours la gueule que tu portes. C'est pourquoi j'ai jeté mes papiers dans les rues. Ce matin de printemps, il avait disparu. C'est dans un de ses ruisseaux, il a pris son bateau. Ranger tes balais, y a les nouvelles ordures. Salut tous les copains de la balayure. Ta-da-day, ta-da-day.
Rouge-gorge, peut-on dire, posé sur le roc, sachant le poids qu'il fait, peut-on dire, accroché au roc, sachant qu'à tout moment, il peut s'envoler.
Et c'est ce qu'il fait, juste avant son poème. On peut dire l'orange de son ventre, malgré le rouge de son nom, le peu de ses ailes, la chance de le voir.
Assez longtemps, entre ciel et terre, nous dire entre ciel et terre sa présence qui dure. Plus longtemps que sa présence, malgré le manque de son chant en été. Vénus Corrugata.
Marceau.
Chloé.
Luc.
Merci les enfants. C'est l'heure des remerciements, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. On a un peu dépassé l'heure, mais tant pis. On profite d'être derrière le micro. Peut-être pour la dernière, on ne sait jamais. Alors, le moment des remerciements. Merci à Lydie pour le Naturo Quiz qu'elle nous a fait toute cette saison encore une fois. Merci à Daniel et Cyril pour l'interview. Et puis on a discuté tout ça, ça faisait bien du bien de revoir les anciens collègues. Merci aux enfants de l'école publique de Sumène qui nous ont proposé les différentes poésies et ont ponctué l'émission tout au long de la saison. Et bravo à eux. Et puis merci aussi à l'équipe enseignante de Sumène. Merci évidemment à toute l'équipe de Radio Escapade qui m'a fait confiance encore une fois cette saison, c'était la 6e saison. À Antoine qui était derrière les boutons, enfin devant les boutons plutôt, derrière la vitre aujourd'hui encore. Merci à la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises qui m'embauche et qui me permet de faire cette émission dans le cadre de mon travail. Et pour finir, surtout un grand merci à vous chères auditrices et chers auditeurs. Si vous souhaitez rester informé de nos nouvelles, je vous rappelle qu'il y a toujours la page Facebook du site Natura 2000 Gorge du Riotor Fage Cagnas pour ceux qui sont connectés. L'adresse c'est Nature à 12000. Je ne sais pas encore si je reviendrai derrière ce micro à la rentrée, mais peu importe. D'ici là, je vous souhaite un bel été, plein de biodiversité, de vivants, de nature, de belles observations, plein d'oiseaux et plein de poésie. Adieu.
Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte.
Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau.
Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt.
Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger.
Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider.
Ne pas se décourager, attendre s'il le faut pendant des années.
La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau.
Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence.
Attendre que l'oiseau entre dans la cage.
Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau.
Puis effacer un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau.
Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau.
Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'arbre dans la chaleur de l'été.
Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter.
Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe.
Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer.
Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Jacques Prévert.
Loan.
Sacha.
Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho quoi ?